Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « le Christ ». Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit « Pierre ». Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » J'aimerais vous lire un extrait d'un témoignage d'un jeune homme qui a mis son témoignage dans un bulletin d'une église sœur dans le 18e. Et voici ce qu'il dit. « J'ai grandi dans une famille non croyante, même si mon père a exprimé ici ou là une forme de crainte de Dieu. En tout cas, je n'ai jamais eu la chance de me familiariser avec la Bible, comme c'était le cas de mes camarades de l'époque qui fréquentaient le catéchisme. À l'âge de 10 ans, j'ai vu un film qui me parlait de Dieu pour la première fois. C'était les 10 commandements. Les interventions extraordinaires de Dieu rapportées dans ce film, comme par exemple l'ouverture de la mer des gens, sont restées dans ma mémoire. À plusieurs reprises, des éléments de ce film me sont revenus dans ma vie d'adulte. Et un peu plus loin. Un jour, j'ai participé à une cérémonie religieuse du mariage d'un ami qui m'a donné envie de lire la Bible. Arrivé chez moi, j'ai acheté ma première Bible à l'âge de 35 ans. En lisant la Bible, j'ai trouvé des réponses aux différentes questions que je me posais sur la vie, sur l'être humain, sur Dieu, etc. En arrivant aux évangiles, j'ai découvert la vie et l'enseignement du Christ. En entendant ce témoignage, on peut être frappé de la manière dont quelqu'un peut entendre parler de Jésus. Ça peut prendre du temps, à 35 ans, et il lit la Bible pour la première fois. Et les premières découvertes, c'est à travers les 10 commandements, Charlton Heston. On se dit, il doit y avoir d'autres façons d'entendre parler de la Bible. On peut venir à connaître Jésus de différentes façons, d'une variété de façons. Mais quelle que soit la configuration du départ, à un moment ou à un autre, il va falloir venir et voir. Venir et voir pour soi-même, pas simplement sur un oui-dire, sur un film ou sur l'invitation de quelqu'un qui reste sans réponse. Il va falloir venir et voir. Et avec ce texte, c'est intéressant de relever à l'esprit pour le découpage qu'on veut avoir, qu'il y a un certain nombre de parallèles. Il y a deux endroits géographiques où Jésus se rend et où il y aura une série de rencontres, d'invitations, d'échanges. Il y a une première série de rencontres qui aura lieu en Judée, une autre série de rencontres en Galilée. Vous voyez assez clairement les deux sections. Et dans les premières rencontres, il y a deux disciples qui entendent les paroles de Jean et qui se mettent, pour un certain André, se mettent à suivre Jésus. Dans le deuxième, c'est Jésus qui appelle un certain Philippe à le suivre. Dans la première rencontre, la personne André va inviter quelqu'un d'autre, trouver quelqu'un d'autre pour l'inviter à suivre Jésus. Dans la deuxième, cette fois-ci, c'est Philippe qui va auprès d'un autre ami, Nathanaël, et qui l'invite. Et remarquez qu'à chaque fois, il y a cette invitation, viens et vois. Décidément. Venez où vous verrez, au verset 39, viens et vois. Et pour les deux qui sont invités, tant Pierre que Nathanaël, Jésus démontre qu'il les voit mieux encore. Et on verra dans les deux cas qu'il voit mieux encore qu'eux. Et il annonce quelque chose qui lui concerne l'avenir. Le plan de ce soir, ça sera tout simplement la chose suivante. Viens et vois les premiers échanges. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir qu'il voit mieux que nous. Et il nous invite à aller plus loin. Maintenant, quand on lit ce texte, tout simplement sur le genre littéraire, qu'est-ce qu'on doit considérer? Vous avez vu des détails qui sont là dans le texte, des prénoms, telle personne, un tel, fils de un tel, des lieux, Bethsaïda, la dixième heure. Qu'est-ce qu'on doit faire de tous ces détails qui sont là dans le texte? Pour celui ou celle qui ne croit pas au christianisme, ben ça sera tout simplement de voir là un genre littéraire qu'on connaît bien pour nous aujourd'hui, le roman réaliste, où on a finalement une description de faits, et le plus de détails on met, le plus on a l'impression d'entrer dans un monde qui nous a été présenté. Pour une personne qui ne croit pas au christianisme, il va voir un roman, quelque chose de détaillé, où justement on nous fait entrer dans l'impression de la réalité, alors que ce n'est pas vraiment la réalité, c'est un mythe. Est-ce qu'on a affaire à ce genre littéraire ici? C.S. Lewis était professeur de littérature à Oxford et dans un article qui revient sur ce genre d'affirmation, il dit la chose suivante. De ce texte, il ne peut y avoir que deux perspectives. Soit le style est du reportage, soit un auteur inconnu du second siècle, sans aucun prédécesseur ou successeur, a soudainement anticipé toute la technique de la narration moderne et réaliste. Si ce qui est écrit ici n'est pas vrai, ça doit être une narration de ce genre. Le lecteur qui ne voit pas cela n'a tout simplement pas appris à lire. Autrement dit, soit on a affaire à du reportage où il dit en détail comment ça s'est passé, ou alors il faut considérer qu'on a un homme là qui, sans prédécesseur, sans successeur dans les siècles qui ont précédé et suivi, a inventé et su mettre en mots un roman réaliste. Avant de remettre le texte au calanque grec en prétendant qu'il s'agit d'un mythe, si on regardait de plus près de quoi il s'agit, c'est comme l'invitation qui est faite, viens et vois. Viens et vois les premiers échanges. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez entendu la lecture du texte? Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est bien que vous ayez le texte sous les yeux pour vérifier, mais deux choses. La première, c'est que j'étais impressionné par le nombre de termes forts qui étaient utilisés pour parler de Jésus. Et ensuite, la deuxième chose, c'est l'accent sur le relationnel dans ce passage, le nombre de relations qui sont mentionnées. Déjà, avec les termes, regardez, l'agneau de Dieu, ça c'est la déclaration de Jean, c'est la deuxième fois qu'il utilise ça depuis le début du livre. Et Joe nous a dit dimanche dernier comment cela renvoie à l'Exode, ce moment où les familles devaient sacrifier un agneau et mettre du sang sur les linteaux pour pouvoir sortir sans que leur fils premier-né soit mort d'Égypte. Avec la deuxième parole, on a deux disciples donc, qui ont commencé à suivre Jésus et qui le reconnaissent comme le maître, verset 38, un terme honorifique qui décrit un enseignant et la relation qu'on a vis-à-vis de lui. Ils sont prêts à le suivre, d'où l'échange sur l'endroit où il loge. Ils veulent devenir ses disciples. André va trouver son frère, Simon, pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie », verset 41. Et là, c'est la désignation d'un roi qui est annoncé plus tôt dans les Écritures et que le peuple juif attendait. Dans le deuxième récit, là on se trouve en Galilée, Philippe se rend... Jésus invite Philippe à le suivre et Philippe se rend auprès de Nathanaël, un ami semble-t-il, et il le décrit comme celui qui est annoncé dans la loi et les prophètes. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Le premier terme, il dit quelque chose d'assez grandiose. Toute la loi, toutes les prophéties parlent de Jésus. Le deuxième peut sembler assez insignificatif. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et d'ailleurs, Nathanaël, en entendant Nazareth, ça lui fait penser que est-ce qu'il y a quelque chose de bon à Nazareth ? Qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de là ? Mais une fois qu'il rencontre Jésus pour lui-même, qu'il répond à cette invitation, viens et vois, là c'est tout autre chose. Rabbi, c'est toi qui es le fils de Dieu. C'est toi qui es le roi d'Israël. Et Jésus termine en se désignant avec un terme, là encore tiré des Écritures de l'Ancien Testament, le fils de l'homme. Pas le terme Messie qui était chargé dans l'esprit des Juifs de toutes sortes de connotations d'un libérateur politique, non. Un personnage décrit comme étant celui qui doit juger, mais en même temps celui qui s'est fait homme, un serviteur. Avec les premiers échanges ici, on réalise que c'est important de savoir à qui on a affaire. Et cette connaissance de Jésus, elle ne sera pas simplement à un niveau, niveau intellectuel ou au niveau de l'expérience. Il va falloir les deux niveaux. Les deux niveaux. Du point de vue intellectuel, théologique, il va falloir comprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment ces termes-là. Et aussi du point de vue de l'expérience relationnelle. Remarquez par exemple que Jésus ne vient pas vers les gens en disant « Bon, juste quelques petits formulaires qu'on va remplir ensemble. Tu vas cocher des croix sur les choses que tu es d'accord, réponse A, B ou C. Est-ce que tu crois à la pleine humanité et à la pleine divinité de ma personne? Est-ce que tu crois à la doctrine de la Trinité ?» etc., etc. Non, l'invitation c'est « Viens et vois. Viens et vois. » Il va falloir le voir au quotidien, au jour le jour, voir comment il vit, comment il parle, comment il s'adresse aux personnes, comment il enseigne. Et dans le même temps, remarquez que ce n'est pas un « tout ce qui compte ». Tout ce qui compte, c'est que tu ressentes quelque chose de fort. Tout ce qui compte, c'est que tu ressentes mon amour pour toi, que tu fasses l'expérience de quelque chose de fort. Les termes qu'on utilise pour me décrire, ça c'est pas important. Pourvu que tu expérimentes quelque chose. Non. Quand il nous dit « viens et vois », il va falloir comprendre à la fois sur un plan intellectuel et à la fois sur un plan relationnel l'expérience. On pourrait le résumer, c'est pas simplement la tête qui doit suivre, c'est le cœur aussi. C'est pas simplement le cœur, mais c'est aussi la tête. Alors quelqu'un pourrait dire « venez, venez voir ». D'accord, pour les disciples à l'époque, ils pouvaient aller suivre Jésus, mais nous, on ne va pas pouvoir le suivre 24 heures sur 24, on ne le voit même pas. Est-ce qu'on peut encore l'expérimenter, ça? Pourquoi est-ce que Jean, justement, est rentré dans le détail des explications? Pourquoi est-ce qu'il nous explique dans le détail ce qui s'est passé? Comment Jésus a parlé à tel, un tel? Comment est-ce qu'il a répondu? Pourquoi est-ce qu'il nous dit, dès le début de son évangile, « Viens et vois ». C'est parce qu'il veut justement qu'on aille plus loin. Viens et vois. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette invitation? Pour ceux qui ont, on a parlé de semer, ceux qui ont fait des sorties à Montparnasse confirmeront, mais c'est effarant le nombre de personnes qui peuvent répondre en disant quelque chose au sujet de Jésus et se disant intellectuellement bien informés, mais qui n'ont jamais lu, ne serait-ce qu'un évangile. Quelque chose comme Jésus, il n'a jamais existé. Les évangiles, ils ont été falsifiés, tout le monde le sait. Le christianisme, c'est une invention pour se faire de l'argent ou pour prendre le pouvoir. Et si uniquement par, ne serait-ce que ça, honnêteté intellectuelle, on répondait à cette invitation à venir et à voir, plutôt que de taxer de mythe, pourquoi pas venir et voir? Plutôt que de se baser sur tel auteur, tel article, tel site internet, venir et voir. Quant à cette première partie, peut-être une application là qui concerne davantage les chrétiens qui sont là ce soir. Vous avez remarqué l'insistance sur l'aspect relationnel de ces premiers échanges. C'est intéressant de faire un peu les liens qui existent les uns avec les autres. Si vous regardez les différents personnages, les deux premiers, dont André, c'était des disciples de Jean, lien de conviction religieuse, on pourrait dire. André, il va voir son frère pour lui en parler, lien familial. André et Pierre, ils sont frères et tous les deux sont de Bethsaïda, c'est la même ville que Philippe, lien géographique. Et on réalise par la suite que Jean, André, Pierre ont la même profession, lien professionnel. Et pour le lien entre Philippe et Nathanaël, ça semble de l'ordre de l'amitié. L'un va chercher l'autre parce qu'il a découvert quelque chose. Toutes sortes de liens, toutes sortes de liens dans ces quelques lignes qui vont leur permettre aux uns et aux autres d'entrer en contact avec Jésus. Et il faut leur connaître. Il y en a certains qui sont plus doués que d'autres pour tout simplement inviter quelqu'un. Ici, à la RDS, il y a des personnes, c'est naturel. J'invite quelqu'un et il vient assez naturellement. C'est intéressant, par exemple, de relever qu'un André, par exemple, chaque fois qu'on le rencontre dans l'Évangile, il est en train d'amener quelqu'un à Jésus. Au chapitre 6, au chapitre 12, ici, il est chaque fois en train d'amener quelqu'un à Jésus. Pour d'autres, c'est plus difficile. Mais chacun d'entre nous est dans ses liens. Chacun de nous est dans une profession, chacun dans des études ou une profession, a des liens familiaux, a ses connexions sur un plan géographique, ses amitiés. Et si on a appris à connaître Jésus à la fois sur un plan intellectuel et sur le plan de l'expérience, de la relation, à un moment ou à un autre, on voudra inviter une autre personne à venir et à voir pour elle-même, pour elle-même. Mais ce qui est remarquable, et on arrive maintenant au deuxième point, c'est qu'il nous voit mieux et il nous invite à aller plus loin. Peut-être que, en présentant Jésus, on pourrait avoir le sentiment qu'on est un peu comme en allant au resto où on a un menu et on a le choix entre différentes croyances et on va regarder les éléments qu'il y a dans le menu, tel menu ou celui-ci, et sur la base de ce qu'on a envie de choisir, on va choisir. Mais c'est intéressant ici de voir que Jésus connaît mieux les cartes que nous, qu'il voit mieux les choses que nous. Ce n'est pas nous qui allons faire le tour de lui. On va justement réaliser qu'on n'arrive pas à faire le tour de lui. Mais lui, par contre, il sait très bien à qui il a affaire. Et à un moment donné ou à un autre, il va nous surprendre dans sa manière de réagir, d'agir dans notre relation avec lui. C'est déstabilisant, mais c'est aussi passionnant quand on y pense. Il voit mieux que nous, qui nous sommes, et il nous invite à aller plus loin dans cette découverte. Il y a d'autres choses à découvrir, à son sujet, à notre sujet. Il sait parfaitement le passé, le présent et l'avenir, et il nous invite à aller plus loin que la surface, le superficiel. Remarquez les deux rencontres sur lesquelles Jean s'attarde, Pierre et Nathanaël. Quand Pierre est conduit vers Jésus, voici ce que Jésus dit. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Il l'appelle par son nom, il sait très bien de qui il est le fils, mais ensuite, il le renomme, il lui donne un nouveau nom. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie, ça, ce changement de nom? Dans une culture comme celle-là, la signification d'un nom, elle était importante. Et ici, c'est comme si Jésus annonçait déjà à Pierre ce qu'il va devenir, à Simon ce qu'il va devenir. Pierre, un roc. Et pour ceux qui connaissent le personnage de Pierre, c'est pas la représentation qui nous viendrait en premier à l'esprit. Après tout, Pierre, c'est l'impulsif de service, l'impulsif qui connaît les grands hauts, mais qui connaît aussi les grands bas, celui qui, à trois reprises au moment du jugement de son maître, alors qu'il a annoncé qu'il allait tenir jusqu'au bout, le renie trois fois. Est-ce qu'on l'imagine en roc, en pierre ? Et pourtant, Jésus voit au-delà. Jésus voit au-delà, Jésus voit mieux que Pierre qui il est, et Jésus voit mieux Pierre que ce que nous voyons de lui. Il voit ce qu'il va faire de lui, comment il va le transformer, quelqu'un qui effectivement va devenir ferme dans ses convictions et dans ses lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il va être de ceux qui vont encourager ceux qui passent par toutes sortes de persécutions, parce qu'il est lui-même prêt à faire face à la mort. Le fait que Jésus voit mieux se vérifie aussi dans la deuxième rencontre sur laquelle Jean s'attarde, la rencontre avec Nathanaël. Lui aussi, on l'a invité à venir et voir. Mais Jean relève que Jésus le voit venir en premier. Et il fait une déclaration qui témoigne qu'il voit en profondeur. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. La première fois qu'on a rencontré Nathanaël dans le récit, il est assez brut de décoffrage ou franc. Il dit les choses telles qu'il les ressent. Pas de diplomatie. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Il l'a même pas rencontré, mais la première, il dit ce qui lui passe par l'esprit. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? On n'a rien entendu d'extraordinaire dans les Écritures venant de Nazareth. Alors, est-ce que je devrais y trouver quelque chose de magnifique? Il ne mâche pas ses mots. Est-ce que ça veut dire qu'il a de la ruse? Non. Parce qu'il répond à l'invitation, il est prêt à aller voir de qui il s'agit vraiment. Ce n'est pas qu'il est faux dans ses réponses. Il est en fait très honnête, il n'est pas trompeur. Il dit ce qu'il pense. Et Jésus peut lui dire qu'il est sans ruse. Jésus voit mieux encore que cela. Il affirme en le voyant que Nathanaël était sous le figuier et qu'il le voyait déjà. Alors on pourrait passer du temps à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faisait Nathanaël sous le figuier? Lecture, méditation, prière, il se limait les ongles. Qu'est-ce qu'il faisait sous ce figuier? La réponse, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Mais l'essentiel, c'est que Nathanaël, il est saisi bouche bée parce qu'il pensait n'être vu de personne. Et pourtant, Jésus l'a vu. Dans ce moment-là d'intimité, Jésus le voyait. Et là, plus de référence à Nazareth, il s'exclame, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le roi d'Israël. » Il a saisi la perception que Jésus a de lui, une perception en profondeur. Et on pourrait dire que Jésus en a déjà fait assez. Déjà, la première, la deuxième, c'est déjà bien. Mais il lâche pas l'affaire. C'est la surenchère. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. Non seulement Jésus voit en profondeur, mais il annonce qu'on va voir encore plus grand. Plus grand encore. Et il poursuit avec une déclaration qui concerne pas simplement Nathanaël, tout le monde, et nous les lecteurs. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit ici? À quoi est-ce qu'il fait référence avec ce ciel ouvert, ces anges de Dieu qui montent et qui descendent? On va essayer de décrypter. Il commence déjà par amen, amen. Quand est-ce que vous avez entendu Amen, ou quand est-ce que vous l'entendez? On l'entend généralement au moment d'une prière. Lorsque quelqu'un prie, on va dire Amen, ce qui signifie c'est la vérité. Autrement dit, je suis d'accord avec cela, je pense que c'est vrai, et je m'y associe. Quelqu'un dit quelque chose, et on dit Amen. Quelqu'un prie, et si on est d'accord, on dit Amen. Jésus n'attend même pas qu'on dise oui ou non sur son affirmation. il le met au début. Amen, amen. C'est la vérité, c'est la vérité. Il ne va pas nous dire de choisir si ce qu'on pense de son affirmation, c'est la vérité. C'est la vérité. Et quelle vérité ? Qu'est-ce que c'est que ce ciel ouvert ? À quoi est-ce que ça renvoie ? Eh bien, ça renvoie à Jacob, en Genèse 28, qui avait trompé son père, son frère, en récupérant le droit d'aînesse. Et il doit s'enfuir pour sauver sa peau. Et alors qu'il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, notez par exemple que c'est un trompeur, à la différence d'un Nathanaël, qui est sans ruse, qui ne trompe pas. Alors qu'il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, alors qu'il est dans le désert, il reçoit la vision d'une échelle et d'un ciel ouvert. Et devant cette manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, une fois que toute la vision est terminée, qu'est-ce qu'il s'exclame ? C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. C'est certain, le Seigneur est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Et Jacob, par la suite, va voir sa vie changer, par ce Dieu qu'il ne connaissait pas vraiment, le Dieu de ses pères. Et plusieurs années plus tard, au moment de son retour dans sa famille, Dieu lui donne un nouveau nom de Jacob, qui signifie trompé, il va devenir Israël, celui qui a lutté. De Jacob, le roublard, il devient celui qui a vécu un face-à-face avec Dieu et qui en est transformé. N'est-ce pas frappant de voir que dans notre texte aussi, il y a eu un changement de nom ? Quelqu'un, là encore, qui s'appelait Simon, mais qui va devenir Pierre. Transformation de sa personne. Et que dire de ces choses plus grandes que Nathanaël doit voir ? Lui qui n'est justement pas un trompeur. Nathanaël vient de la ville de Cana, et quand on suit la lecture, on réalise que c'est là que Jésus va faire son premier signe miraculeux à Cana, en changeant de l'eau en vin. Et que dire de la manifestation de la présence de Dieu, toujours dans ce même chapitre 2, ce qui viendra juste après ? Alors que Jésus se trouve dans le temple, symbole de la présence de Dieu, il affirme à ses disciples et à tous ceux qui l'entendent qu'il est le véritable temple, qu'il est la véritable présence de Dieu. Le voir lui, c'est expérimenter cette présence de Dieu. Et l'invitation qui nous est lancée là, c'est « Viens et vois ». Est-ce qu'on sera prêt à aller plus loin, à venir et à voir ? Ou est-ce qu'on sera un petit peu comme une situation que vous avez peut-être vécue, où vous êtes chez un ami et vous êtes à l'ordinateur et vous voulez lui montrer quelque chose ? Et vous lui dites, viens, je vais te montrer quelque chose. Et la personne dit, non, ça va. Et vous dites, mais viens, je te dis, viens voir. Mais non, je sais ce que tu vas me montrer. Et vous insistez, mais arrête, mais viens voir ce que je veux te montrer. Non, je sais où ce que tu veux en venir, je suis pas intéressé. Est-ce que c'est ce genre de réponse qu'on va avoir, finalement, où il n'y a pas l'information, où il n'y a pas l'expérience ? Est-ce qu'on va en rester là, à l'invitation qui est lancée ? Jésus affirme que lui nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il connaît notre passé, notre présent et l'avenir. Combien de questions est-ce qu'on s'est posées ces jours encore quant à notre avenir ? Lui sait bien mieux que nous de quoi il est fait et comment nous pourrons le vivre. Et quant à une transformation dans notre vie, il est la présence même de Dieu, une présence qui transforme tous ceux qui l'ont rencontré. Tous ceux qui ont rencontré Dieu en sortent transformés. Qu'est-ce qu'on va faire de cette invitation ? Viens et vois. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces paroles que nous avons pu lire et nous te prions que tu nous accordes cette saine curiosité, ce désir d'en savoir plus, cette honnêteté aussi intellectuelle de vouloir aller plus loin dans notre compréhension de qui est Jésus, à la fois sur un plan intellectuel, mais aussi sur un plan de l'expérience. Accorde-nous cette grâce dans les semaines qui viennent, ici à la RDS, mais aussi dans les échanges, à être prêts non seulement à lancer une discussion sur ce qu'on entend, sur ce qu'on lit, mais aussi à être prêts à étudier, à méditer ces paroles, à aller plus loin que la surface. Accorde-nous cette grâce de le rencontrer tel qu'il est et permets-nous de voir ces choses plus grandes qu'il annonce et cette transformation qu'il promet par sa propre présence. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.